BPM, le journal d'information locale.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal quotidien sur BPM. Dans l'actualité de ce mercredi 3 février, nous commencerons par Aubergenville. Un individu a insulté et frappé des agents municipaux. Nous irons à Mantes-la-Jolie. La ville déclenche son plan de sauvegarde communale face à la crue de la Seine. À Jusier, la commune s'engage dans la lutte contre le cancer. Nous parlerons de scolarité. Les lycées yvelinois pourraient accueillir 800 élèves de plus d'ici à 2030. Et puis concernant l'éducation, une grève des enseignants a eu lieu la semaine dernière pour dénoncer leurs conditions de travail et la stagnation des salaires. Une nouvelle mobilisation aura lieu demain. Nous écouterons à ce sujet trois membres du syndicat Sud Éducation 78 en fin de ce journal. On commence donc par Aubergenville. Lundi, un individu a été interpellé sans masque. Il a insulté et frappé les agents qui le contrôlaient. Ceux-ci ont été légèrement blessés. L'homme a été placé en garde à vue. Direction Mantes-la-Jolie, nous vous l'indiquions hier, le niveau de la Seine monte régulièrement depuis plusieurs jours. Lundi après-midi, il a atteint 5,25 m, dépassant le seuil d'alerte. En conséquence, la ville a décidé de déclencher son plan de sauvegarde communale. En fonction de l'évolution de la situation, des arrêtés pourront être pris pour interdire l'accès des piétons, vélos et rollers à certains bords de Seine. De plus, il est conseillé aux promeneurs d'être particulièrement vigilants au bord du fleuve et des lacs. Les riverains sont enfin invités à stationner leurs véhicules dans une zone sans risque d'inondation. La police environnement de Mantes-la-Jolie est entièrement mobilisée et effectue notamment des relevés trois fois par jour pour adapter les mesures de la ville. Tous les endroits sensibles sont sous surveillance et des contacts ont été pris avec les occupants des îles, notamment la ferme pédagogique, les restaurants de l'île aux Dames, la SM Voile et la SM Tennis pour l'application de mesures préventives. La ville adaptera son dispositif dans les jours à venir tant que le département sera classé en vigilance orange inondation. Nous nous rendons à Jusier. La ville s'engage dans la lutte contre le cancer en association avec France Cancer. Elle organise la récolte de bouchons en liège ou en synthétique via un point de collecte situé à l'accueil de la mairie. En déposant vos bouchons, vous participez à la fois à la recherche contre le cancer et à la réduction des déchets. Chaque année, près de 3 milliards de bouchons de liège sont jetés à la poubelle en France. Une fois récoltés, les bouchons sont revendus à des entreprises assurant leur recyclage en panneaux d'isolation acoustique et thermique. L'intégralité des fonds est ensuite reversée par l'association France Cancer en faveur de la recherche contre la maladie. Scolarité à présent. La région Île-de-France a présenté ses projections sur la démographie scolaire. Elle s'attend à accueillir 800 élèves de plus dans les lycées des Yvelines d'ici à 2030. C'est bien moins que dans d'autres départements de Grande Couronne. Ces 800 lycéens supplémentaires seraient répartis principalement dans le secteur de Poissy et de Conflans-Sainte-Honorine, où la région estime qu'il faudra surtout réfléchir à des extensions de lycées existants. Du côté du conseil départemental, on se prépare à accueillir davantage de collégiens dans le même ordre de grandeur d'ici à 2026. 15 collèges du département seront d'ailleurs reconstruits pour une enveloppe de 525 millions d'euros. La collectivité estime aussi que les effectifs progressent modérément avec 740 collégiens de plus entre 2019 et 2021, soit 1% de hausse. D'ici à 2025, il pourrait y avoir jusqu'à 66 500 collégiens et les établissements seraient alors en moyenne occupés à 85%. On reste dans l'éducation en général. Plusieurs organisations syndicales appellent à la grève demain pour défendre la préservation et le développement de l'emploi et des services publics et lutter contre la précarité. Cette journée fait suite à la mobilisation du 26 janvier où les personnels de l'éducation et les infirmières dénonçaient leurs conditions de travail et la stagnation de leur salaire. William, enseignant dans le Mantois, parle au nom de Sud Éducation 78 et nous relate la situation actuelle.
L'idée c'était de dénoncer le fait que le point d'indice donc qui régit le calcul du traitement des fonctionnaires, en fait, il n'a pas bougé depuis un certain nombre d'années. Et du coup, il n'a pas du tout suivi l'évolution du coût de la vie, quoi. Donc, il y a cet élément-là qui était principalement dénoncé dans la mobilisation du 26, donc en revendiquant une augmentation du salaire pour à la fois les enseignants, mais pas seulement les enseignants. En fait, la mobilisation, elle visait aussi à mettre en évidence d'autres personnels qui, pour certains, sont particulièrement précaires. On pensait aux AESH, donc accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et puis, les AED également, quoi. Il y avait deux rassemblements sur le département, sur le 78, qui avaient été coordonnés donc par une intersyndicale. Il y avait un rassemblement à Mantes-la-Ville et un rassemblement à Guyancourt. Donc les deux ont réuni à peu près 60 personnes pour revendiquer ces hausses de salaire et dénoncer aussi ces conditions de travail. Donc aussi, avec une grosse présence des AESH et des infirmières scolaires qui voient aussi leur statut, leur fonction attaquée en ce moment. Je dis, en fait, il y aura plusieurs, le matin, plusieurs interventions sur les gares de Poissy, Mantes-la-Ville, Joly et Saint-Quentin-en-Yvelines pour effectuer des distributions de tracts à destination des passants et des voyageurs, donc avec une manifestation parisienne l'après-midi. Alors, il y avait un petit point aussi, c'est que l'AG qui avait eu lieu, donc l'AG intersyndicale qui avait eu lieu mercredi 27, avait décidé de mener dans la même logique à intersyndicale une conférence de presse, donc pour l'instant les dates sont à définir, mais ça sera une des suites aussi de cette mobilisation. En ce moment, c'est aussi la période des dotations globales horaires, donc suite au comité technique départemental qui se sont tenus. Donc là, en fait, c'est dans les conseils qui sont présentés en commission permanente et en conseil d'administration et sont, pour beaucoup d'établissements, insuffisantes, avec l'enjeu qui est, en général, de déshabiller en fait, un établissement pour mieux doter un autre, quelque chose qui empêche les personnels, au sens large, en fait, de faire leur métier dans de bonnes conditions, quoi.
Parmi les personnels de l'éducation, les AESH accompagnantes d'élèves en situation de handicap qui travaillent dans des conditions précaires. On écoute Souad, une représentante de la profession, elle aussi membre de Sud Éducation 78.
En ayant quand même un parcours professionnel auparavant qui est dans le médical, donc je ne suis pas non plus en formation, je suis confrontée quand même à une hiérarchie qui nous propose des salaires qui ne sont pas du tout décents, qui nous permettent à peine de vivre. On est obligé d'avoir plusieurs travails en même temps. On cumule du travail. Souvent, nous ne sommes que des femmes, donc c'est plus compliqué pour pouvoir après gérer les enfants dans la vie quotidienne, mais bon, on s'adapte. On prend les enfants en charge, alors on a une formation de 60 heures, mais malgré tout, on ne la fait pas toutes. Étant donné les conditions actuelles de la crise sanitaire, nous sommes amenés malheureusement à travailler sans formation auprès d'enfants en situation de handicap, tels que la dyspraxie, dyslexie, l'autisme, la trisomie, enfin j'en passe. Et donc, sur le terrain, souvent les enseignants ne sont pas non plus formés autant que nous, et donc la situation fait que on est confronté à une certaine souffrance de la part des enseignants, de la part de nous, et puis on n'a pas de statut au niveau, enfin on nous dit que si on a un statut, mais on ne le voit pas, on est très très précaire. Moi je touche 638 euros par mois en raison de presque 20 heures par semaine, donc voilà, je dois faire ma vie avec ce salaire. Le travail je l'aime, je suis auprès d'enfants, mais heureusement que j'ai eu quand même une formation antérieure avec un peu d'enfants malades, enfin tout ça, donc certaines personnes ne l'ont pas eu et c'est assez compliqué. On se sent un peu seul parfois dans ces classes-là. On pense aussi aux parents. Moi, je pense beaucoup aux parents d'enfants en situation de handicap qui sont pas toujours informés ou mal informés, et nos conditions de travail sont pas toujours bien connues, bien sues, et c'est toute une institution quand même, l'éducation nationale. C'est pas toujours évident, même si on dit qu'on fait bien qu'on essaye de répondre à certaines demandes. On fait partie aussi du PIAL, du pôle inclusif d'accompagnement localisé, depuis 2 ans ou 1 an et demi à peu près. Et on déshabille Pierre pour habiller Paul, ça veut dire qu'on est AESH pour un enfant. Mais si on a besoin de nous ailleurs parce qu'un enfant en a besoin, on se rend, on se déplace pour pouvoir l'aider, sans savoir ce qu'on doit réellement faire sur le terrain, parce que ça reste quand même des enfants. Et la crise sanitaire nous aide pas non plus, parce qu'on est avec des masques, mais on n'a pas la possibilité d'avoir le mètre de distance. La communication, on attendait des masques inclusifs, on les a toujours pas. L'abandon du PIAL, pour nous, c'est quelque chose qu'il faut vraiment envisager. Au quotidien, des fois, on est amené à faire 3-4 écoles différentes à des endroits différents. Il y a des distances différentes. Et on se retrouve face à une gestion administrative qui ne nous rémunère pas nos déplacements au niveau financier. Enfin, vraiment, ils pourraient faire un petit geste pour qu'on soit plus reconnu avec un statut. Une vraie formation continue, non pas uniquement une formation qui est de 60 heures et qui n'est pas toujours adaptée à nos besoins. Et à la reconnaissance d'un temps plein à 24 heures. On fait aussi certaines fours 24 heures. C'est tout le temps qu'elles passent à l'école et c'est considéré comme un mi-temps et pas comme un temps plein. Il est important de se faire entendre et il est important qu'on sache un petit peu comment ça se passe dans certains établissements.
Et puis il existe d'autres métiers de l'éducation où les professionnels se sentent floués par le gouvernement. Véronique Hummel est professeure documentaliste dans un collège d'Épône, représentante de Sud Éducation, elle déplore le manque de considération de l'État envers sa profession.
Les décisions récentes du gouvernement, c'est de ne pas nous accorder la prime d'équipement informatique qui est accordée à tous les autres enseignants. Une prime de 150 euros annuelle qui devrait être versée là, bien normalement en ce moment, mais qui n'a pas été versée et qui de toute façon ne nous est pas accordée à nous, professeurs documentalistes. Les deux raisons invoquées, c'est que premièrement, nous ne serions pas devant élèves, sous-entendu on ne s'occupe pas vraiment des élèves, ce qui est faux parce que parmi nos missions, il y a l'éducation aux médias et à l'information, Nous faisons des cours d'éducation aux médias et à l'information. Moi, j'enseigne aux élèves ce que sont les réseaux sociaux, ce qu'est la presse, comme ce qu'il faut faire et ne pas faire avec l'information, les fake news, les réseaux sociaux. Ça fait partie de nos missions et le ministre dit qu'on ne le fait pas. Donc ça, c'est la première injustice. Deuxième raison pour laquelle on nous refuse la prime d'équipement informatique, selon le ministre, c'est qu'on a des ordinateurs dans les CDI, sur nos lieux de travail, ce qui est vrai, mais tous les autres enseignants ont aussi un ordinateur sur leur lieu de travail, que ce soit dans la classe ou dans la salle des profs. Donc cette raison est particulièrement malhonnête. Donc ça, ce sont les décisions récentes, le refus de nous accorder cette prime d'équipement informatique. Mais sinon, historiquement, il y a beaucoup d'autres injustices pour nous. Par exemple, il n'y a pas d'agrégation dans la discipline documentation. Un professeur de mathématiques ou un professeur d'anglais, quand il veut gagner un petit peu plus d'argent, il peut passer le concours d'agrégation pour devenir agrégé et être mieux payé. Chez nous, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Et quand on fait des heures supplémentaires, qu'on demande à ce qu'elles soient payées, elles sont moins bien payées pour les professeurs documentalistes que pour les autres professeurs. Donc il y a tout un catalogue d'injustices et de discriminations concernant notre métier.
Nous terminons ce journal par les infos près de chez vous. Concernant la Seine, soyez vigilants si vous vous situez à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone habituellement inondable. Conformez-vous à la signalisation routière. Plus d'infos sur vigicru.gouv.fr. À Aubergenville, le prochain conseil municipal se tient ce soir à 20h en direct sur la page Facebook de la ville. À Épône, retrouvez l'exposition du photographe Claude Chose à la médiathèque Pierre Amouroux jusqu'au 1er mars. Et enfin, à Buchelet, la mairie et le conseil régional d'Île-de-France organisent une journée de dépistage de la Covid-19. Ce sera demain au centre des arts et loisirs. C'est gratuit, sans rendez-vous, de 10h à 13h et de 14h à 17h. La présentation d'un numéro de sécurité sociale est indispensable pour pouvoir être testé et obtenir ultérieurement des résultats. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.
Retrouvez le journal d'information locale du Mantois sur bpmlaradio.com.